Beaucoup de plaisir à me retrouver parmi vous. Je suis arrivé un petit peu plus tôt que d'habitude. J'ai vu avec quel dynamisme les sœurs et les frères vietnamiens chantent les cantiques dans leur langue maternelle, et c'était pour moi très agréable. Je n'ai pas tout compris, évidemment, mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir votre joie, votre zèle, enfin le bien-être et le bon état d'esprit qui règne parmi vous. La dernière fois que je suis venu, c'était au mois de juin, et donc je vois aussi des différences chez les jeunes qui deviennent des jeunes ados. Alors bon, certains nous ont quittés là, mais c'est intéressant de les regarder, de vous voir changer. Je vois des jeunes ados qui deviennent des jeunes gens, je parle de vous, et donc, et jeunes femmes. Et donc je trouve ça remarquable, c'est vraiment très très agréable de vous voir, toujours fidèle, et puis de voir le Seigneur qui agit dans vos vies. Puis alors pour les plus âgés, eh bien, c'est aussi un bonheur de vous voir, de voir vos visages et de vous voir fidèles dans le Seigneur. Alors j'ai été amené à choisir ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 9 à 21, parce que c'est un passage dans lequel le Seigneur prépare ses disciples à son départ, donc à ce qu'ils se retrouvent tout seuls sur la terre. Évidemment, le Saint-Esprit leur sera accordé, mais au moment où le Seigneur enseigne ces choses, les disciples n'ont pas vraiment compris ce que c'est que d'être un disciple, ce que ça veut dire que d'avoir accepté Jésus-Christ, quelles sont les conséquences de suivre le Christ. Ils vont découvrir tout cela dans quelques semaines, et par rapport à l'époque du texte. Et le Seigneur est en train de nous donner quelque chose d'extrêmement important, puisqu'il va donner ce qu'il a appelé un commandement nouveau. Il dit « Voici quel est mon commandement » dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et on retrouve donc dans le chapitre 15 d'aujourd'hui cette même déclaration. Et ce passage du chapitre 15 se divise de verset 9 au verset 17 par le thème de l'amour, et puis des versets 18 à 21 par un thème complètement opposé à l'amour, c'est celui de la haine. Et quand on regarde le texte, ce qui apparaît naturellement, c'est que dans le fond, Jésus esquisse les contours de son Église. Et il dit en quelque sorte, l'amour et la haine définissent les frontières. À l'intérieur de l'Église, c'est l'amour qui doit primer, qui doit s'exprimer, qui doit se développer, et l'amour tel que je vous ai aimé. Et puis à l'extérieur, vous allez vous trouver exposé à une opposition, mais plus qu'une opposition, à la haine. Et donc on peut dire que l'Église se trouve donc définie à la fois positivement et négativement. Positivement, l'Église est le domaine de l'amour. Négativement, elle est l'objet de la haine du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que vous avez lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry, quand il dit « dessine-moi un mouton », et alors donc il dessine un mouton, mais à chaque fois ça ne lui plaît pas le mouton. Et alors Saint-Exupéry dessine un coffret. Et puis le petit prince, il dit « Mais où est le mouton ?» Et Saint-Exupéry lui dit « Le mouton, il est dedans. » Et c'est exactement quelque part la même histoire. L'amour est dans l'Église. Et dans l'Église, c'est l'amour qui doit s'exprimer. Et on va voir ensemble quel type d'amour. Pourquoi ? Parce qu'à l'extérieur de l'Église, vous et moi, en tant que chrétiens, nous allons être exposés. Quoi que nous fassions, même en étant les plus généreux du monde et désirant aimer ceux qui sont perdus, nous allons de facto, parce que nous sommes chrétiens, nous trouver exposés à une résistance et voire à un déferlement parfois de haine. C'est ce que certains de nos frères dans le monde connaissent à l'heure actuelle. L'amour donc qui caractérise l'Église de Jésus-Christ n'est pas n'importe quel amour. C'est très important de dire cela aujourd'hui parce que le monde ne cesse de dévaluer la notion d'amour. J'appartiens à une génération où on nous expliquait ce qu'était véritablement le fait d'aimer, ce que représentait l'amour. Et ça n'a rien à voir avec ce que j'entends aujourd'hui. Et ce que j'entendais quand j'étais jeune, voire enfant, c'était quelque chose qui venait des Saintes Écritures. C'était la vérité biblique qui était exprimée même en grande partie dans la société profane. Parce que le catholicisme, le christianisme de manière générale, eh bien, imprégnait la société. Mais aujourd'hui, comme ce n'est plus du tout le cas, alors on entend parler d'amour, mais plus du tout de l'amour tel que Dieu nous en parle dans sa parole. L'amour que le Christ exige de ses disciples, c'est d'abord l'amour qu'il leur a lui-même témoigné. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Ça, c'est le niveau d'amour vers lequel Dieu va nous faire progresser, dans lequel Dieu va nous faire avancer. Il est donc essentiel pour nous de relire les évangiles avec ce regard, quand on lit le texte, de découvrir comment Jésus-Christ a aimé ses disciples. Parce que dans le fond, si on veut véritablement rentrer dans la volonté de Dieu et vivre ce que Dieu a prévu de nous faire vivre dans la puissance de son Saint-Esprit, eh bien, il nous faut pencher nos regards sur l'Écriture sainte, relire les évangiles et demander à Dieu qu'il nous permette de voir la manifestation de sa gloire dans l'expression de son amour vis-à-vis de ses disciples pendant son ministère sur cette terre. Et c'est là où nous allons puiser les exemples qui vont nous permettre de vivre véritablement dans l'Église l'amour selon Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. Dans le climat actuel de notre société, il est important aussi de souligner le lien fort que le Seigneur établit entre amour et obéissance. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Aujourd'hui, quand on nous parle d'amour, ça n'a rien à voir avec l'obéissance. C'est j'aime quand j'ai envie d'aimer, j'aime parce que ça me fait du bien, j'aime parce que je suis libre de faire ce que je veux. Mais dès qu'on parle d'amour et d'obéissance, d'amour et de fidélité, vous voyez bien ce qui se passe dans la société autour de nous, les gens résistent. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ces commandements ? L'amour, c'est quelque chose de libre. Alors que dans les Saintes Écritures, l'amour est étroitement lié au commandement du Seigneur, à sa parole. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et là, on voit l'expression des caractéristiques, de quelques caractéristiques de ce qui fait, dans les Saintes Écritures, un disciple. C'est-à-dire ce que Dieu veut développer dans la vie de chacun d'entre nous aujourd'hui. Beaucoup de nos contemporains seraient horripilés de ce rapprochement amour et commandement, amour et obéissance. Et prenons garde de ne pas nous laisser contaminer par leur mentalité. Nous ne sommes pas libres de vivre en tant que chrétiens comme nous pensons devoir le faire. Nous sommes libres en Christ, mais sous, évidemment, ce qui s'appelle la loi de Christ, c'est-à-dire la vie dans la plénitude du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, va nous conduire véritablement dans une vie de liberté, et paradoxalement, dans une vie de disciple, c'est-à-dire de serviteur qui obéit, qui met en pratique, dans la puissance de l'Esprit de Dieu, et par sa grâce, qui met en pratique sa volonté. Alors c'est loin, évidemment, de la conception de la société. Notre amour se mesure à notre obéissance. Vous savez ce que disent les épouses à leur mari ? Tu me dis toujours que tu m'aimes. Prouve-le-moi. Et le mari répond, mais toi, tu me le dis pas, tu le dis moins souvent que moi. Et l'épouse répond, ben oui, mais moi, je repasse tes chemises, je te fais à manger. Ça, c'est un acte, ce sont des actes d'amour. Et voilà comment ça se passe, le dialogue entre un mari et une femme. C'est que la femme, elle va aimer en action. Et l'homme, il va aimer en réflexion. Il va dire, je t'aime. Et puis parfois, il va rester quelque peu, en tous les cas pour les Français, quelque peu égoïste, pour certains Français, pardon, quelque peu égoïste. Notre amour se mesure donc à notre obéissance. C'est aussi notre obéissance à la parole de Dieu qui nous rapproche les uns des autres. Vous savez, le véritable amour dans l'Église, il ne repose pas simplement sur les sentiments, les émotions, le bien-être qu'on peut ressentir, mais la base de l'amour, ce qui fait le socle et le fondement, la fondation inébranlable de l'amour, eh bien, c'est l'obéissance de chaque enfant de Dieu pour lui-même devant son Créateur, l'obéissance à la parole. C'est aussi notre obéissance, donc je le disais, à la parole de Dieu qui nous rapproche les uns des autres. Et ce sont nos désobéissances qui nous divisent et nous éloignent les uns des autres. Vous savez, quand on regarde les choses, ce n'est pas dans le fond très compliqué. Si on vise tous la même chose dans la grâce de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit, pour pouvoir véritablement mettre en pratique et vivre cet amour de Dieu, eh bien, ces choses vont nous rapprocher de l'Écriture sainte, de l'obéissance et donc de la communion fraternelle authentiquement construite et développée par l'Esprit de Dieu. Mais si nous, chacun, nous faisons un petit peu ce que nous avons envie de vivre et laissons de côté les aspects de l'enseignement de l'Écriture sainte, alors nous allons imperceptiblement, mais irrévocablement, nous retrouver à nous éloigner les uns des autres. Et le jour où il y a une difficulté, ben, au lieu que l'unité se maintienne, ça se fracture et ça explose dans certains cas. Toute désobéissance d'un des membres de l'Église est nocive pour le corps de Christ. Pourquoi ? Parce que l'amour est le ciment de l'Église. Et ce ciment, cet amour qui est le ciment de l'Église, c'est l'amour qui veut obéir en tout au Seigneur. Tout ce que nous connaissons là où nous en sommes rendus, tout ce que nous comprenons pour nous-mêmes devant Dieu par sa grâce, nous devons avoir le désir de le vivre et de le voir, de voir ces choses s'exprimer dans nos vies par l'action puissante de Dieu. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas du tout ici dans le registre de l'amour qui vous tombe dessus sans crier gare, mais qui peut aussi bien s'évaporer un beau matin sans laisser de traces. On voit bien nos vedettes, certaines de nos vedettes de la chanson, et un coup ils n'aiment plus. Il n'est pas question de cet amour-là dans l'Église. L'amour pour le Seigneur Jésus-Christ et pour nos frères et nos sœurs doit être librement consenti à la lumière de ce que le Fils a révélé au sujet du Père. C'est-à-dire, c'est dans la contemplation, dans la compréhension, dans la découverte et la connaissance de cette relation d'amour entre le Fils et le Père. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par entre le Père et le Fils, et entre le Fils et le Père. C'est cela qui va éclairer nos intelligences, qui va sanctifier nos volontés, et qui va bouleverser nos émotions pour nous faire adhérer à cette... à ce programme de Dieu, oui Seigneur, je veux aimer comme tu m'as aimé et comme avec le Père vous vous aimez et avec le Saint-Esprit. Il est donc question de laisser la parole de Dieu illuminer et appliquer à nos vies par le Saint-Esprit ce que la révélation de Dieu nous présente. La lecture de la Bible, ce n'est pas simplement pour apprendre des choses intellectuellement. C'est absolument indispensable, il faut connaître les fondements de notre foi. Mais c'est pour aller beaucoup plus loin. La connaissance d'une personne, ce n'est pas simplement une approche intellectuelle, c'est une approche humaine. C'est l'approche de l'être tout entier, de deux êtres tout entiers qui se rencontrent, que ce soit en amitié ou en amour intime pour former un couple entre un homme et une femme. Mais c'est cela, la connaissance, elle doit aboutir à l'expression de cet amour. L'amour chrétien ne consiste pas à se sentir tout chose chaque fois qu'on pense à ses frères et sœurs en Christ. Vous avez des personnes qui ont une sensibilité psychologique, émotionnelle. Alors, vous savez, ils viennent vers vous, puis « Oh, c'est le bonheur de te voir oh, !» Bon, ça existe, des personnes comme ça. Mais souvent, c'est simplement un aspect extérieur, et il y a une profondeur plus grande. Mais s'il n'y a pas de profondeur plus grande, on peut se poser la question. De la même manière qu'il y a des gens qui sont beaucoup moins chaleureux, plus réservés, plus retenus. Et on va se dire, mais il manque d'émotion, ces gens-là. Ils nous disent bonjour, on a l'impression que... Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas un amour profond chez ces gens-là. Vous savez, il faut aller au-delà des apparences dans tous les cas de figure. Et donc, l'amour, selon le Christ, ne consiste pas à se sentir tout chose. Chaque fois qu'on pense à ses frères et sœurs en Christ. Non, l'amour chrétien se manifeste par notre choix permanent. Un choix permanent. Ça nécessite la mobilisation de la volonté, l'acceptation d'un projet, d'un désir. L'amour chrétien se manifeste par notre choix permanent du bien des autres membres du corps de Christ. Bien que nous sommes prêts à promouvoir au prix de notre propre confort, parce que c'est ainsi que le Christ nous a aimés, en quittant son ciel de gloire, de notre propre quiétude, de notre propre bien, puisque Jésus est allé jusqu'à donner sa vie pour nous, qui sommes ses amis. Quand nous nous limitons à faire pour nos frères seulement ce qui ne nous coûte rien, ce qui ne nous dérange pas, pouvons-nous vraiment prétendre que nous faisons ce que Jésus nous commande ? Vous savez, il y a des personnes, quand vous leur demandez un service, elles essayent toujours de trouver un moyen pour éviter que ça complique leur vie. C'est-à-dire, vous leur demandez un service, vous êtes dans le besoin. Vous aimeriez que votre prochain vous fasse, fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'il te fasse. Donc quand on demande un service, on a envie qu'on nous dise, écoute, ok, je vais faire ça, je vais t'aider. Mais assez souvent, il y a des personnes qui disent « Ah ben oui, mais est-ce qu'on peut modifier ça ? Est-ce que ça peut être un autre jour ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ?» C'est plus un service. C'est plus un service. Si quelqu'un vient me demander un service et que je lui pose des exigences, mais il y a quelque chose qui n'irait pas chez moi. On doit là, hop, c'est comme si le Seigneur nous avait dit « Écoute, pour être sauvé, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » Mais on dirait « Seigneur, j'y arrive pas. » Ce sont des exigences inatteignables. Le Seigneur est descendu en quittant son ciel de gloire, s'est vidé en quelque sorte de sa gloire, non pas de sa divinité. S'est humilié lui-même, il n'a pas été discuté avec son Père. Il a dit, voici, tu m'as formé un corps, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice pour le péché, mais tu m'as formé un corps. J'ai dit, voici, je viens pour faire au Dieu ta volonté. Et rendre un service, c'est quand même cela. Tu as besoin d'un service, toute affaire cessante, ok, je te rends service. Ça, c'est l'amour tel que Jésus nous a aimés. Enfin, un aspect de l'expression de cet amour. Je vous donne un commandement nouveau. Le commandement est nouveau parce que le commandement d'aimer son prochain comme soi-même, c'est le deuxième commandement. Alors, le premier commandement, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme ». Excusez-moi, je ne suis pas dans l'ordre là, du texte, mais c'est quand même ça, tous les trois, les quatre éléments y sont. Mais le commandement nouveau, c'est d'aimer son prochain, d'aimer son frère, sa sœur en Christ, comme le Christ nous a aimés. Et c'est en cela que c'est nouveau. Le monde selon Jésus. Pourquoi est-ce que l'Église s'attire la haine du monde ? Je ne sais pas si vous suivez vraiment l'actualité de ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde sur la persécution des chrétiens, de toute dénomination soit-il. Ce massacre systématique des chrétiens. Eh bien, l'Église s'attire la haine du monde parce qu'elle perpétue la présence et l'œuvre de Jésus. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous et moi, Nous perpétuons la présence de Jésus. Quand on s'approche de quelqu'un, quand on va au travail, quand on est avec nos voisins, quand on va faire des achats chez un commerçant, etc., on perpétue la présence de Jésus. La bonne odeur de Christ, les gens le sentent. Ils voient bien qu'il y a quelque chose de différent chez nous. Enfin, j'espère qu'ils s'en rendent compte. Et c'est ça. En tant que chrétiens, nous sommes porteurs de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Et pourquoi cette haine du monde ? Ben, c'est parce que les chrétiens n'appartiennent plus au monde. Et le monde ne leur pardonne pas. Si on pouvait se rendre compte de ce qui se passe dans certaines relations entre un non-chrétien et un chrétien. Parfois, il y a des non-chrétiens, ils sentent qu'ils ne peuvent pas nous mettre dans leur poche. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas nous acheter. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas nous faire rentrer dans une combine. Ils sentent qu'ils ne peuvent pas nous entraîner dans un compromis. Parce qu'on leur dit, non, je suis chrétien, je ne fais pas ces choses-là. Non, avec amour, non, tu ne me feras pas faire ça, je suis chrétien. Tu ne m'achèteras pas avec de l'argent ou avec des combines. Mais ça suscite, vous savez, une irritation chez certains. Nous n'appartenons plus au monde, car c'est le choix de Jésus qui nous a mis à part. Il ne s'agit pas ici de leur choix, c'est-à-dire le choix des disciples d'avoir choisi le Christ, mais c'est Jésus qui les a choisis, de la même manière que c'est Jésus qui nous a choisis, qui a choisi chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau. C'est lui qui nous a choisis, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Et c'est pour cela que nous pouvons connaître et l'amour et l'opposition et la haine dans nos vies. Vivre dans le monde sans lui appartenir, sans adopter ses valeurs, ou se plier à son idéologie, c'est forcément inconfortable. C'est-à-dire, c'est marcher à contre-courant. Et nous sommes, en tant que chrétiens, minoritaires. Le christianisme n'est pas la pensée générale de la société, c'est fini. Nous sommes donc des marginaux dans cette société, comme tous les chrétiens authentiquement nés de nouveau de toutes les générations ont toujours été marginalisés par la société. Parce qu'un chrétien va toujours à contre-courant. Il défend des valeurs, des vérités, la justice, l'honnêteté, la franchise, la droiture, etc. Il s'oppose au péché. Comment voulez-vous que le monde accepte ces choses ? Le Seigneur n'a pas laissé ses premiers disciples dans le doute. Il les a avertis pour qu'ils soient prêts à souffrir pour lui. Mais il a aussi précisé que l'action de l'Esprit-Saint, promis, donc qui allait venir sur eux à la Pentecôte, rendrait possible un témoignage efficace, même dans l'adversité. La haine du monde n'est pas toujours une haine violente. Elle peut prendre des aspects extrêmement subtils. Et c'est ce qui se passe en France, dans notre république humaniste. Le fait d'empêcher les chrétiens de s'exprimer librement, c'est une manière d'empêcher le témoignage. C'est l'expression d'une haine policée. Vous savez ce qui est remarquable dans l'humanisme français ? C'est ce côté pervers. On est extrêmement poli, on est démocrate, soi-disant, mais on impose et on empêche les chrétiens que nous sommes de s'exprimer librement dans les médias, dans la presse, etc. Ça, c'est une opposition farouche, c'est une haine déguisée sous une apparence de compréhension, de tolérance. Et c'est pour cela que la foi chrétienne aujourd'hui, au plan des analyses sociologiques, est ravalée au niveau d'un produit. Quand vous dites à quelqu'un que vous êtes chrétien, pour peu qu'il ait fait un petit peu d'études, il va tout de suite vous mettre dans une case. clac, sociologiquement, tes parents, ils viennent quoi? Quel milieu? Tata, titi, tata, pam, boum, crac. Être chrétien aujourd'hui, c'est faire partir à une famille sociologique. Pour le monde. Mais pour Dieu, c'est être son peuple, c'est autre chose. Et un peuple de témoins. En même temps, le monde, il faut bien le reconnaître, comporte un courant profondément religieux. La société extérieure à la Bible est alimentée par toutes sortes de pensées religieuses. Capable de se persuader, ce même courant spirituel, hein, est capable de se persuader que sa persécution des chrétiens constitue une façon légitime d'honorer ce qu'ils appellent Dieu. Et ça, c'est comme ça que le fanatisme, justifie ces assassinats, en disant c'est au nom de Dieu que nous faisons cela. Et Jésus a répondu dans les versets en question, il a dit ils font cela parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Et donc vous voyez comment c'est subtil cette façon d'être dans le monde, et comment cette haine, elle peut prendre des apparences très différentes. En même temps, on peut nous-mêmes être gênés, parce qu'on est dans des situations avec des gens dits religieux. Nous sommes parfois gênés dans nos contacts avec le monde religieux, entre guillemets, parce que nous avons l'impression d'avoir quelque chose en commun avec ceux qui ont cette sensibilité spirituelle. Il y a plusieurs dénominations, plusieurs mouvements qui portent le nom de chrétien, de christianisme en général. Et alors on est gêné parce qu'on se dit, mais c'est quand même des chrétiens. Et alors là, on aurait tout intérêt à regarder ce que la Bible dit justement. Qui est chrétien? Qui fait partie de l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que c'est ceux qui croient simplement comme ça? Ou est-ce que ce sont uniquement ceux qui sont nés de nouveau, choisis par Dieu, élus dès avant la fondation du monde? N'est pas chrétien dans le sens biblique n'importe qui, même s'il pratique une religion. Et c'est là tout le besoin d'un discernement, d'une intelligence, d'une connaissance et d'un discernement spirituel pour aimer celui qui se croit chrétien alors qu'il n'est pas né de nouveau. Nous avons quelques points communs avec des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Mais eux ne seront pas persécutés systématiquement. Alors que nous, si nous insistons sur le message de l'Évangile dans toute sa simplicité mais sa vérité, alors là, on va y avoir droit. C'est évident. On imaginerait mal le Seigneur Jésus-Christ dire à un bouddhiste ou à un hindouiste ou à un musulman que nous adorons tous le même Dieu. Vous voyez qu'il y a un discernement à avoir. Il est extrêmement important pour la stabilité et la sérénité de notre foi de savoir précisément ce qu'est l'Église et ce qu'est le monde aux yeux de Jésus-Christ lui-même. Dans le deuxième volet, celui de la haine, Jésus avertit : s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, verset 20 du chapitre 15. Puis il ajoute : mais c'est à cause de moi, de mon nom, qu'ils agiront ainsi. L'Église a donc non seulement le privilège de demander et de recevoir comme Jésus, mais aussi l'honneur de souffrir la persécution à sa place. N'oublions pas cette dimension dans le message de l'Évangile. Pour cracher sur Jésus, pour humilier Jésus, pour taper sur Jésus, le monde n'a pas d'autre moyen que de s'en prendre aux chrétiens. N'oublions pas qu'il y a plus de chrétiens persécutés aujourd'hui qu'à aucune autre époque de l'histoire de l'Église. Et ne nous laissons pas endormir par le fait que l'hostilité du monde prend chez nous, en France en particulier, des formes plus subtiles, comme le mépris ou l'indifférence. Le regard que Jésus jette sur le monde est sans complaisance, mais aussi bien sûr sans haine. Que le Seigneur nous donne cette même clarté de vision et ce regard d'amour. Le monde a tant haï Dieu qu'il a cloué son Fils sur une croix. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition éternelle et qu'ils aient la vie éternelle. L'Église, pour conclure, existe pour témoigner de cette vérité et pour opposer à la haine l'amour que Dieu fait pousser dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen.